Bonjour, la première fortune de France sur le premier podcast français, c'était le 8 juillet dernier avec Bernard Arnault, interviewé par Guillaume Play sur Légende. 1h40 d'interview et 1 million de vues en 4 jours, Légende c'est une chaîne YouTube mais aussi un podcast Spotify qui publie plusieurs entretiens en tête-à-tête par semaine et qui génère en moyenne 85 millions de vues par mois. Celui qui l'incarne, celui qui choisit les questions et le casting, c'est Guillaume Play. D'abord animateur radio sur Énergie, puis présentateur sur M6 et chroniqueur sur Touche pas à mon poste, il monte Légende en 2023. Dans son fauteuil, Guillaume Play propose du sensationnalisme. Un trafiquant de drogue internationale, la victime d'une tuerie familiale, un médecin légiste, un complotiste, un braqueur de banque, mais aussi des personnalités politiques, de Jordan Bardella à Édouard Philippe en passant par Louis Boyard. Arrêt sur image est déjà revenu sur certaines de ses invitations. Dieudonné en 2024, le multi-condamné pour injures et discrimination raciale, reçu au prétexte d'un droit de réponse à une interview d'Elie Semoun. L'ancien président en sortie de prison, Sarkozy, en décembre dernier. Et plus récemment, l'ex-patron du Mossad, il y a quelques jours, sans aucune question, sur le génocide à Gaza. On revient cette semaine avec une interview plus complète sur celui qui se proclame full neutre et full bienveillant et qui a donc reçu il y a une semaine le PDG du géant du luxe LVMH, Bernard Arnault, pour y dérouler son récit personnel. Comment le premier podcast de France est-il devenu l'un des outils de communication privilégiés des grandes puissances économiques? Pourquoi l'homme le plus riche de France a-t-il choisi Légende? Que gagne cette émission et quelle place est-elle en train de prendre dans le paysage médiatique? Pour revenir sur ces différentes questions, nous recevons aujourd'hui deux invités. Benjamin Teinturier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialisé dans les stratégies numériques de la droite radicale et vous avez participé à l'enquête du Monde, publiée fin juin sur Légende. Merci d'être avec nous. Et Audrey Millet, à distance, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et vous signez le 10 juin dernier un livre-enquête intitulé « Bernard Arnault, son univers impitoyable » aux éditions La Tribu. Vous avez épluché des milliers de documents pour retracer le parcours du milliardaire. Bienvenue à tous les deux. Alors, sur la vignette de cette fameuse interview de Bernard Arnault, on y lit des confessions inédites. Sur les réseaux sociaux, Guillaume Play nous vend une interview exceptionnelle, rare. Bernard Arnault raconte à 77 ans pour la première fois son histoire. Bienvenue sur Légende et le registre de l'inédit.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui puisque c'est la première fois que Bernard Arnault, le patron de LVMH, le plus grand groupe de luxe du monde, a donné une interview longue sur son parcours, sur sa vie. Comment ça s'est passé le dîner avec Jacques Chirac, avec Lady Di, avec la princesse?
Ce qui intéressait le plus le président Chirac, c'était la beauté de Diana. Et donc, il avait presque plus d'yeux pour elle
pour Lady Di
que pour les tableaux de Cézanne. Voilà.
En 1984, vous rachetez le groupe Boussa qui est en faillite à ce moment-là, c'est un groupe qui ne va pas forcément très bien.
On avait 12 000 personnes, on s'était engagé à en garder 10 000. Le groupe qu'on a bâti à partir de là, aujourd'hui, 200 000 personnes.
À chaque fois, on voit Bernard Arnault à un jet privé, par exemple. Ça vous a été beaucoup reproché aussi.
On voulait même me suivre à la trace. Alors maintenant, j'ai réglé le problème, il y a quelques années, j'ai vendu. J'ai plus de jet privé. Maintenant, quand ça m'arrive de faire ça, je loue un avion.
Alors, Benjamin Teinturier, pourquoi Légende a choisi d'inviter Bernard Arnault?
Alors, avant de répondre à la question, il faut quand même que je reprécise d'où je parle. Je n'ai pas participé en tant que journaliste, disons, ou chercheur, à l'enquête du Monde. J'ai été invité...
Pour interpréter les résultats de l'enquête du Monde.
Exactement, pour interpréter les résultats, eu égard à mes connaissances et à mon travail sur la façon dont les idées politiques circulent sur le web et à ma connaissance de l'écosystème médiatique en ligne et hors ligne. Donc, pourquoi Légende? D'abord parce que c'est un espace aujourd'hui très en vue. Et puis, par ailleurs, c'est un espace dans lequel vous avez de la place pour vous exprimer. Vous avez, ça a été mentionné dans l'enquête et je pense qu'on y reviendra, assez peu de contradictoires, voire pas de contradictoires du tout. Et par ailleurs, vous avez comme ça 1h40, on imagine que ça aurait pu déborder davantage, et surtout la possibilité de faire des réponses longues, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous allez à la matinale de RTL, France Inter, où là, on est très contraint par les formats.
Bien sûr, mais là, la question, c'est pourquoi Légende choisit Bernard Arnault?
Par ailleurs, parce que c'est dans leur storytelling, dans leur manière d'interpréter le roman national, c'est une légende. C'est une réussite incroyable. Ça a été pendant un moment, je crois, l'homme le plus riche du monde. Il en parle dans l'interview avec l'opération Boussa qui fait gagner énormément d'argent à l'État français, avec tout ce que l'État français touche après en TVA, etc., sur les produits qui sont vendus par Boussac. Bref, c'est une histoire de réussite emblématique, a priori.
Et pour rappeler un petit peu justement les résultats de l'enquête du Monde dont on parlait, il s'inscrit aussi un peu dans une lignée parce que le Monde a analysé donc près de 200 vidéos de légendes et les journalistes démontrent que la majorité des thèmes traités, après les faits divers, 21% du contenu, c'est le business qui accapare 18% des vidéos et donc 19% des invités sont des hommes d'affaires et 70% des invités sont des hommes. Un autre élément aussi, le Monde révèle que pour participer aux émissions Légendes Business, ce qui n'est pas le cas ici, certains sont prêts à payer jusqu'à 62 000 euros pour être interviewé par Guillaume Play. Autre élément de contexte, nous avons souhaité inviter Guillaume Play pour cette émission pour donner du contexte, expliquer sa démarche, mais son associé Emmanuel Diaz nous a répondu qu'il n'était pas intéressé par notre invitation. Audrey Millet, je vais me tourner vers vous maintenant. Cette fois, la question inverse, pourquoi Bernard Arnault, lui, décide d'aller maintenant sur Légende ?
Légende est un média bienveillant et bienveillant avec les puissants. Ce n'est pas du tout du journalisme, ce format long. C'est vraiment une vitrine. Il y a un principe économique. On obtient l'invité rare, donc le milliardaire, et en échange, le milliardaire, on lui offre un confort total. Aucune contradiction, un ton admiratif et une promo qui finalement est glissée au passage. Le marché est gagnant-gagnant. Bernard Arnault, ça lui permet de polir son image. Il y a actuellement un redressement fiscal. Enfin, depuis juin, il y a un très bon livre qui vient de sortir, une enquête sur lui. C'est le moment ou jamais, en fait, d'intervenir dans les médias. Et je voudrais vous prendre comme comparaison juin 2026 et juin 2025. En juin 2025, ce qu'on entend sur Bernard Arnault et sur BLMH, c'est l'accession de son fils à la maison Loro Piana, le rachat de nombreuses actions en bourse. Ce sont des faits. Mais là, ce que fait Bernard Arnault en juin-juillet 2026, ce ne sont pas des faits, c'est un récit qui raconte une histoire. Et ce format-là, sans contradiction, lui permet de sortir son storytelling qui est très connu, c'est-à-dire que l'histoire de Diana, il la raconte dans son livre, puisqu'il a écrit un peu son journal intime en 2000. C'est toujours les mêmes histoires, donc il n'y a pas d'exclusivité, absolument pas.
Alors juste, est-ce que selon vous, la parution récente de votre livre, donc le 10 juin dernier, pourrait être un élément d'explication sur le fait que Bernard Arnault vient maintenant sur Légende, dans le sens où personne n'avait écrit de livre enquête sur lui depuis 23 ans?
La vague de portraits flatteurs que fait Guillaume Play n'est jamais finalement due à une actualité. Elle surgit toujours quand quelque chose va mal. Nicolas Sarkozy sort de prison, il veut nous raconter son épopée, son incarcération, et il vient chez Guillaume Play. C'est une contre-attaque de communication, c'est un contre-feu, ce n'est pas une interview, et c'est tout simplement le tempo, les faits, qui dévoile cette opération, le flux flatteur de LVMH chuté en juin 2026. On est quand même à moins 26% de l'action sur l'année. Le fisc donc lui fait un redressement et mon enquête paraît et est boycottée dans les relais qui appartiennent à Bolloré, un ami de Bernard Arnault. Ça fait beaucoup, c'est le moment pour lui d'intervenir. Et de s'humaniser, et en 1h40, il a eu le temps.
Vous faites référence aux relais, pour celles et ceux qui ne savent pas, il y a un mois, le Canard Enchaîné titrait « Les relais de Vincent Bolloré volent au secours de Bernard Arnault. Les magasins ont annulé leur commande de votre livre de 400 exemplaires. » Un autre élément aussi qui peut permettre d'expliquer le contexte de cette interview, c'est les révélations du média Glitz, un média d'investigation sur l'industrie du luxe, qui a publié aujourd'hui le fait que Légende entretient aussi des liens avec l'agence de communication Forward Global, qui est un prestataire de la direction de la communication du LVMH. Forward assure la communication de l'agence Influx, qui est à la fois promoteur et financier de Légende. J'aimerais revenir sur le montage qu'on a vu juste à l'instant. Audrey Millet, est-ce que cette interview, finalement, est-ce qu'elle est racontée est si exceptionnelle ?
Non, c'est absolument pas exceptionnel. Et il y a des choses fausses également. Donc Diana, ça, il l'a déjà raconté. Il parle également de sa famille, parce que ça en fait un père de famille, un grand-père.
On reviendra sur le contenu dans un second temps.
Et ce qu'il raconte, par exemple, sur Boussac, en réalité, c'est faux. Puisqu'il ne dit pas que la France, en fait, lui a donné 1 milliard.
On y reviendra plus en détail en montrant l'extrait en question. Avant ça, Benjamin Teinturier, le côté sensationnel, en fait, on le retrouve ici, mais dans toutes les autres vidéos de Guillaume Play, est-ce que c'est un peu sa marque de fabrique ?
En tout cas, c'est l'une des marques de fabrique des vidéos qui veulent attirer sur YouTube beaucoup de vues. On sait que quand vous générez beaucoup de vues et qu'une de vos voies pour avoir de l'argent et monétiser vos vidéos, c'est le nombre de vues, ben oui, les sujets clickbait, faits divers, insécurité, violence, ça marche bien. C'est bien connu dans l'histoire des médias, c'est également présent sur YouTube et ça alimente le business de tout un tas de chaînes, dont Légende. Ouais.
Vous l'avez évoqué tous les deux, si Bernard Arnault accepte aussi cette interview, c'est parce qu'il il connaît le cadre dans lequel il va s'exprimer. Dans un entretien accordé à Paris Match, propriété donc de Bernard Arnault, Guillaume Play revient sur l'interview. Il explique quel est le résultat d'un an et demi de travail, de préparation et de rencontres. Il serait d'abord passé par Jean-Charles Tréhan, donc le directeur des relations extérieures du groupe LVMH, puis a rencontré le fils, donc Antoine Arnault, et le père, Bernard Arnault. Une autre rencontre a eu lieu, tous les trois autour d'une table, et son objectif, dit-il, était de comprendre la flamme intérieure de Bernard Arnault. En ce qui concerne les appréhensions de Guillaume Play, il rapporte, je cite, « avoir eu peur qu'il ne passe pas un bon moment ». Alors, si l'animateur assure avoir obtenu l'accord de Bernard Arnault pour lui poser toutes les questions, regardons leur tonalité et ou leur superficialité.
Vous avez aimé vivre aux États-Unis, même si ça n'a pas été très long, c'était quand même...
Ben oui, c'est pas mal.
Est-ce que parfois, quand on est un grand patron tout en haut de la pyramide, est-ce qu'on se sent seul ? Parfois, on parle de la solitude du patron.
Est-ce que
ça vous arrive ? Vous travaillez tout le temps ? Vous arrivez à prendre des vacances, à vous reposer avec...
Bien sûr. Oui.
Est-ce que vous avez le temps de réfléchir ? Est-ce que dans votre agenda, il y a des moments juste pour réfléchir ?
J'essaie.
De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui ? C'était quoi la meilleure décision de votre vie ? Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous laissez ? Quand on est à l'académie, c'est pour transmettre aussi. Vous avez une passion, c'est le piano et la musique. Vous êtes un grand amateur de piano. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans ? Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Vous êtes un grand amateur et collectionneur d'art aussi. On m'a dit que vous aviez une très belle collection, mais pas parce que vous avez les moyens, parce que vous avez du goût. Vous aviez su, avant les autres, savoir quel artiste allait... C'est une vraie passion pour vous, le tennis ? Comment ça s'est passé, le dîner avec Jacques Chirac, avec Lady Di, avec la princesse ? Il est comment, Donald Trump ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer ?
D'améliorer mon revers lifté.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir donné de votre temps. Ça s'est bien passé, l'interview ?
Très bien.
Alors, Benjamin, là, c'est quoi la fonction de Guillaume Play dans cette interview ?
Deux choses, à mon avis. Bon, la première, c'est que c'est d'abord d'affirmer un style qui peut trancher avec le style d'autres intervieweurs politiques dans ce genre de contexte tout à fait favorable à la personne qu'on invite. Je pense à Thierry Ardisson, par exemple, ou même, si vous avez en mémoire, l'époque Zemmour et Nolo, où on savait quand on allait à « On n'est pas couché », je crois, on pouvait se faire vraiment étrier sur place. Là, c'est de s'imposer comme quelqu'un qui mène des interviews, ça a plein d'autres problèmes et on pourra y revenir après, mais dans lesquels on sait qu'on va être flatté, on sait qu'on va être caressé dans le sens du poil. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que on veut vraiment faire voir une légende. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette interview, elle n'est pas tant sur LVMH. Ça aurait pu être vraiment très intéressant d'avoir des informations sur la stratégie de LVMH, sur les coups durs, sur la concurrence aussi, le marché asiatique. Tout ça, c'est complètement absent. Et on a plutôt une démonstration de la réussite de Bernard Arnault et de ce que c'est que d'être finalement quelqu'un qui a réussi. De jouer au tennis avec Federer, d'aller dans des grands dîners, de se balader dans plein d'institutions comme ça, d'avoir comme du pouvoir sur le marché, pas le marché de l'art mondial, mais en tout cas le marché des musées mondiaux. Donc c'est vraiment ça la fonction, c'est quelque part de satisfaire à la promesse de l'émission. On va vous montrer quelqu'un qui a réussi, on va vous montrer une légende. Et évidemment, comme ça a été tout à fait rappelé, en oblitérant tous les points d'ombre et les choses désagréables.
Mais du coup, comment vous le qualifiez? Parce que peut-être on peut préciser, Guillaume Blais ne se revendique pas journaliste, hein, il se revendique français, qui pose des questions à d'autres français. Mais donc du coup, s'il n'est pas journaliste, il est intervieweur, animateur, peut-être même facilitateur?
C'est une question centrale à mon avis. C'est central parce que à deux égards, la profession journalistique, elle est floue. Ses frontières sont floues. Il y a d'abord une tradition inhérente au métier de journaliste, qui est que vous pouvez être journaliste sans avoir de carte de presse, sans avoir même fait d'études de journalisme. Comme ça, les barrières à l'entrée sont relativement, a priori, relativement faibles. Donc un peu tout le monde peut dire qu'il est journaliste. Hein. Ça c'est clair et c'est quelque chose qui est bien étudié par la sociologie du journalisme. Le deuxième aspect, c'est les plateformes et le numérique qui a considérablement abaissé le coût d'entrée dans l'espace public. Et maintenant, à peu près n'importe qui peut publier un message écrit ou vidéo qui soit public. Donc ça, c'est très important. Ça ne fait pas pour autant de Guillaume Blais, à mon sens, un journaliste. Ça fait plutôt de lui un animateur, un entrepreneur d'idées, vivant dans cette très très large zone grise de gens qui finalement produisent du contenu, l'éditorialisent, on voit que c'est très éditorialisé, sans respecter tout un tas de normes qui sont propres à la distanciation journalistique et à les normes professionnelles en fait, du journalisme que vous retrouvez dans Libération, dans Le Monde, dans Arrêt sur Image, qui consiste par exemple à séparer les faits et les opinions. Ça, c'est quelque chose qu'on doit, dans l'histoire du journalisme, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, quand apparaissent les éditos, un éditorial, c'est le moment où une figure forte d'un journal prend la plume pour exprimer son avis, le reste du temps, dans un journal, ce sont des faits. Voilà, cette séparation stricte, c'est une norme, une règle d'or de ce qui fait un média. Il y a d'autres règles, comme l'adhésion à la CPPAP, il y a plein d'autres, qui ne sont pas satisfaites par les gens. Donc ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des médias, et donc, quelque part, ils ont le droit de faire ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas soumis à l'impératif de pluralisme interne. Ils n'ont pas à interviewer et inviter tant de gens de droite, tant de gens de gauche, etc.
Ils n'ont pas ces impératifs, mais en même temps, ils peuvent quand même emprunter certains codes de l'interview. Une autre question pour vous, Audrey. On voit aussi une forme d'admiration dans les questions qu'on a vues jusqu'ici dans ce montage. Par ailleurs, Guillaume Blais confie, toujours dans Paris Match, qu'en lançant son média, il avait un tableau avec ses invités de rêve et que Bernard Arnault figurait tout en haut. Donc je vous pose la question, à partir de quel moment l'admiration, elle modifie la nature de l'entretien ?
Benjamin a expliqué que justement ce n'est pas un journaliste, c'est un créateur, un producteur de contenu. Et c'est la différence, elle est fondamentale parce qu'on a besoin des journalistes. Là, en fait, il a une liste et il disait son rêve, mais il réalise ses rêves. Et ses rêves, c'est, vous voyez, son YouTube, c'est un peu un Instagram. C'est, on voit un homme qui a réussi. C'est un véritable fantasme. Il a des connaissances avec des gens très connus, même une princesse. Il va dans des grands dîners. Il a des beaux tableaux et en plus, il a du goût. Ce n'est pas seulement grâce à son argent, c'est par sa culture. Il joue du piano. Tout le monde ne joue pas du piano. Il jouait sur des Pleyel, notamment. C'est pas le piano le moins cher. Il joue au tennis avec Federer. En fait, il vend du rêve. Et ça donne une image, bien entendu, tronquée. Lycée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais totalement construite. En fait, c'est un fantasme, c'est le fantasme de la réussite. Il pourrait très bien lui poser comme question « Avez-vous bien dormi hier soir ?» Il répondrait de la même manière, Bernard Arnault, il dirait oui. En fait, dans son interview, il n'y a rien.
Alors, on a bien compris justement la place de la complaisance et le confort du format. Cette interview, donc, comme vous le dites, elle participe à la fabrique d'une image publique de Bernard Arnault. On va s'intéresser au rapport qu'il entretient avec les journalistes qui racontent une autre histoire, celles et ceux qui enquêtent et parfois révèlent des informations parfois embarrassantes pour LVMH. Écoutez ce qu'il répond à Guillaume Blais.
Oui. Est-ce que vous regardez ce qu'on dit de vous dans les médias ou vous en fichez ou vous regardez pas? Quelle est votre opinion là-dessus? Parce qu'on parle souvent de vous.
Oui, mais ça me laisse complètement froid. Et dans la plupart des cas, je regarde même pas. Et on me dit, mais enfin, t'as vu cet article? Non, je l'ai pas vu. Je vais pas le lire. Je m'en fous complètement.
C'est vrai?
Absolument. Oui, oui. Mais c'est l'attitude à avoir. Quand on, enfin, en France, quand on réussit un peu, immédiatement on est critiqué. Hein? Bon, voilà, bah c'est tout. Par des gens souvent qui ne comprennent pas ce qu'on fait ou qui veulent critiquer pour différentes raisons qui leur sont propres. À quoi ça sert? C'est pas la peine de se polluer l'esprit avec ça, à mon avis. Hein.
Non, non, mais il pourrait y avoir... humainement, quelque chose qui vous a blessé, ça peut arriver, même si on n'en a rien à faire, ou voir quelque chose où on se sent blessé parce qu'on travaille pour quelque chose, et justement, il y a quelque chose qui sort, qui est complètement faux.
Bah, il y a des tas de choses fausses qui ont été dites, oui.
Benjamin, cette indifférence affichée, est-ce qu'elle est compatible avec ce qu'on sait de Bernard Arnault concernant sa relation avec les médias, notamment d'investigation?
Moi, ça me rappelle... Déjà, ça me rassure de voir ça. Ça me rassure, ça me rappelle le titre d'un grand classique de la sociologie du journalisme qui s'appelle « Why do we need an unlovable press ?» On a besoin d'un journalisme qui n'est pas aimé, quoi. On a besoin de journalistes qui ne sont pas aimés. Et c'est souhaitable, c'est désirable et c'est important. Parce que on a besoin de gens qui puissent gratter là où ça fait mal, aller voir les privilèges et parfois les démêler avec la justice, avec les puissants, les révéler. Tout ça. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il faut, parce que souvent les grands patrons sont des propriétaires de médias, il faut protéger les médias indépendants, il faut protéger les médias publics, c'est très important parce que ce sont eux qui peuvent faire ce travail-là. Parce qu'on imagine bien que tous les médias possédés par des gens comme Bernard Arnault et par Bernard Arnault vont pas aller faire les enquêtes désagréables qui sont encore une fois désirables et importantes en démocratie.
Peut-être quelques éléments factuels avant de vous donner la parole, Audrey. Pour mesurer aussi l'interventionnisme de Bernard Arnault, rappeler des faits, à la fois des pressions économiques, on se souvient en 2012, LVMH, qui avait donc retiré les publicités prévues pour Libération au lendemain de sa une critique de Bernard Arnault. Un exemple qui participe à une autocensure peut-être des médias qu'on documente largement à Arrêt sur Image pour ne pas se mettre à dos le principal annonceur LVMH. Mais aussi d'autres types de pressions et d'entraves à la presse, comme en 2024, où Bernard Arnault avait interdit à ses salariés de parler à une liste noire de 7 médias indépendants, dont Mediapart, L'Informé ou encore Le Canard Enchaîné. Donc, André Millet, je vais vous poser la même question vis-à-vis de votre livre. Quelles précautions vous avez prises pour écrire votre enquête quelles précautions vous avez prises?
Bien, personne ne savait, à part l'éditeur, le PDG du groupe. Et évidemment, vous ouvrez des mails les plus protégés. Vous avez des conversations sur des applications les plus protégées et vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas et évidemment, vous doublez vos disques durs, ce type de choses. Pour ne pas avoir de pression. En fait, c'est plutôt... moi, je voulais prévenir. Plutôt que guérir, quoi. Mais sa manière de répondre, elle ressemble beaucoup à Bernard Arnault. C'est quelqu'un qui a le sang-froid. En tout cas, c'est ce qu'il veut montrer. Et vous parliez de son rapport avec les journalistes. Moi, dès 1984, dans les archives, j'ai trouvé des pièces où Bernard Arnault écrit à des journaux pour leur dire d'arrêter d'écrire des papiers sur lui, des papiers ignobles. Le mot est tout de même là. Vous avez évidemment, c'est pas pour rien qu'il fait autant de publicité. C'est environ 160 millions d'euros de publicité dans la presse par an en France. Donc ça lui permet d'avoir un levier. C'est ça qui est très important sur la presse. Mais il y a aussi le nettoyage numérique et ça on l'apprend pendant le procès Squarcini, donc de l'ancien directeur de l'espionnage français pour dégrossir. Il avait commandé. Donc une analyse de lui-même, de sa réputation, donc on appelle ça un réputation squad, pour modifier la fiche Wikipédia, notamment pour corriger sa fiche Wikipédia, pour orienter les conversations aussi et pour favoriser certaines photos. Donc non, en fait, ça l'intéresse. Il s'intéresse vraiment à ce qu'on dit sur lui, et il l'admet d'ailleurs lors d'une commission au Sénat, celle de 2022, où il explique, il reconnaît avoir appelé le patron de Libération pour se plaindre. Donc c'est un homme qui se fiche de la presse, mais c'est pas du tout ça, ça c'est le vernis, mais il a organisé une machine avec les autres oligarques, c'est-à-dire ces personnes qui détiennent beaucoup. Ils ont organisé une machine qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de médias indépendants. On se demande qui est journaliste, producteur de contenu, créateur de contenu. En fait, on est perdu. Mais il répète qu'il ne lit pas, mais en réalité, c'est avec méthode qu'il prépare son arrivée dans les médias depuis 40 ans.
Et votre éditrice, dans l'Humanité, a raconté s'être fait cambrioler. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Eh bien, elle s'est faite cambrioler après que l'éditeur et l'avocat ont envoyé le contradictoire, donc une cinquantaine de questions à LVMH, afin qu'il puisse répondre au livre, évidemment. C'est le béaba de l'édition. Le timing est ce qu'il est, on ne sait pas, mais on sait très bien qu'il y a des agences d'espionnage qui sont embauchées. On le voit très bien dans le procès Squarcini. Lorsque Bernard Arnault explique « on suivait mon avion », moi, pendant 400 pages, j'ai plutôt eu l'impression que les journalistes étaient suivis et que les journalistes étaient fichés, mais que ce n'était pas Bernard Arnault.
Bah, effectivement, cette histoire rappelle les méthodes employées, en tout cas pour le journal Fakir. Donc vous évoquiez Bernard Squarcini. Résultat du procès, il a été condamné en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Il a fait appel parce que donc Fakir avait été notamment surveillé et infiltré. Ce passif, il ne vous a pas dissuadé à enquêter sur Bernard Arnault ?
Non. Mais j'ai été étonnée à chaque fois que j'écrivais, je me disais que le système, que c'était un véritable système et qu'il n'y a pas que Bernard Arnault dans ce système. Quand on assiste à l'investiture de Donald Trump, ils sont tous là. Vous avez les Zuckerberg, vous avez toutes ces grandes multinationales. C'est vraiment une photo de famille, une photo de classe. Et je ne suis pas journaliste, donc j'ai des archives. Et j'ai l'impression que ma note de bas de page, c'est la meilleure arme.
Dernière question vis-à-vis de ce sujet. Selon le Canard enchaîné, Antoine Arnault aurait contacté la famille Pinault, actionnaire du groupe Les Nouveaux Éditeurs, pour limiter l'impact médiatique de votre livre. À quel point vous avez été invité par des médias pour parler de votre livre et par ceux de Bernard Arnault ?
Alors, c'est très difficile. Donc, j'en profite pour vous remercier. On a des journaux qui y sont allés, le Canard enchaîné, l'UMA y est allé, Libération y est allé. Je n'ai pas de télé publique, je n'ai pas de radio publique. Ça fait 23 ans qu'un livre n'a pas été écrit sur cette personne. C'est aussi un livre qui part d'une trajectoire individuelle, mais pour dessiner l'histoire du capitalisme français et mondial, qui parle d'une concentration des richesses. On arrive donc à une concentration du pouvoir. Ça me semble un livre important. L'année prochaine, on a des élections présidentielles. On aimerait comprendre comment ces élections vont être menées, où vont aller parler les gens, comment ils vont être interviewés, qui va l'être plus ou moins. Mais je ne désespère pas. Blast vient d'y aller aussi. Je suis ici. Donc, ce n'est pas un livre de 3 semaines. Normalement, c'est un livre pour les 23 prochaines années.
Maintenant qu'on a tenté d'éclairer un petit peu pourquoi cette interview a eu lieu, on va essayer de regarder maintenant ce qu'elle raconte. En offrant cet espace aussi long et confortable, Guillaume Play permet à son invité de dérouler son récit, sans jamais vraiment être interrompu ou confronté aux faits. Une expression va vraiment rythmer l'interview dans la bouche de Guillaume Play comme de Bernard Arnault.
Ils avaient donc un sens de l'effort, un sens du travail qu'ils avaient inculqué à leurs enfants, à leurs petits-enfants, donc en partie à ma personne.
C'est votre maman qui vous a donné le goût du travail, votre grand-père, c'est un mélange de tout ça. Pour comprendre d'où ça vient.
Vous dites que c'était une valeur familiale.
Quand on a une grande fortune, comment est-ce qu'on donne le goût du travail à ses enfants ? Parce que vous avez des enfants qui sont brillants.
Là, vous passez.
On va revenir après,
vous,
mais.
Vous avancez de 50 ans, là.
Vous l'avez eu. Oui. Vous direz, comment vous l'avez transmis à vos enfants ? Quel est le plus beau cadeau que vous avez pu faire à vos enfants ?
Je pense que, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas, c'est quelque chose que je leur ai donné et que je leur ai permis de cultiver, c'est le goût du travail. Parce que ils ont tous, quand même, le goût du travail.
Audrey Millet, est-ce qu'on assiste réellement ici à quelqu'un qui en est là pour son goût du travail ?
Alors, c'est un grand travailleur. Ça, on ne peut pas lui retirer. Mais le récit, c'est quand même, si on part de rien, on peut y arriver par le travail. Donc. Mais les archives ne disent pas ça. En fait, il s'est construit un nom, il a fait une des plus grandes écoles du monde, l'école polytechnique, il s'est correctement marié et il a aussi eu l'État qui l'a aidé. C'est-à-dire que le travail, personne ne le nie. Mais une trajectoire ne va pas s'expliquer seulement par une vertu. Elle s'explique par des leviers. Donc le nom, il a épousé Anne de Vavrin, qui est une des grandes dynasties du Nord, ce nom qui lui manquait dans le Nord de la France. Et finalement, il a pu accéder à cette bourgeoisie textile. Le titre, Polytechnique. Donc, on l'a dit excellent à Polytechnique. Alors, attention, pour avoir le concours de Polytechnique, il faut être excellent. Mais il est sorti dans le fond du classement, en réalité. Ce n'est pas le génie mathématique du récit qu'on entend à chaque fois. Il a gagné son passeport par son école. Et une pièce brise le mythe, c'est son instructeur militaire qui explique qu'il est inapte à se voir confier un poste à responsabilité. Alors, ça fait rire aujourd'hui, puisque finalement le groupe va employer, aura à peu près 200 000 collaborateurs. Mais ça veut dire que cette personne, sur ce recto verso, ses notes et ses appréciations, cet instructeur militaire explique que Bernard Arnault ne s'occupe pas des gens de son régiment, qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'ils doivent apprendre, qu'il s'intéresse à lui, qu'il regarde de loin, qu'il n'a pas le sens du collectif et qu'il est individuel. En réalité, ce goût du travail et ce mythe de la méritocratie, c'est juste pour expliquer aux gens qui regardent, vous avez vu comme c'est mérité, continuez de travailler. C'est quand même mieux d'avoir un père qui a déjà une entreprise pour pouvoir réinvestir, de se marier correctement, de se retrouver dans les bons réseaux, d'avoir le titre d'une des plus grandes écoles du monde et de pouvoir donc accéder à des réseaux de hauts fonctionnaires ou de banquiers.
Oui, et puis son goût du travail, enfin il y a son goût du travail qu'il affiche. On entend beaucoup parler de Bernard Arnault, mais par contre on n'entend pas tant parler de LVMH. C'est ce que vous notiez tout à l'heure, Benjamin.
Oui, oui, en effet. Alors, moi, je trouve très juste ce qui vient d'être dit sur l'interprétation qui est donnée du mot travail dans cette interview. Hein. En tant que tel, le goût du travail, c'est pas spécialement une valeur, c'est pas forcément une valeur de droite. Hein. Vous lisez, Charles Péguy, L'Argent, il parle, qui est plutôt une référence à gauche, il parle de la piété du travail bien fait, de la façon dont, quand on fait une chaise, c'est comme si on bâtissait une cathédrale, etc. Là, c'est un travail au sens mérite, au sens self-made man. Si vous travaillez, bah, vous allez réussir et puis vous réussirez comme moi. Moi, j'ai surtout envie de dire que c'est une version visible du travail, c'est-à-dire très, très exposée. Voilà. Mais quand, il faut dire aussi que quand on travaille 8 heures par jour, 9 heures par jour, qu'après, on doit s'occuper de ses enfants, qu'on fait du travail domestique qui n'est pas aussi valorisé que le travail dans une grande entreprise où on peut aussi faire des déjeuners, c'est plutôt des moments agréables, même si ça compte pour du travail. Finalement, on a aussi le goût du travail quand on est secrétaire et qu'après, on élève des enfants, que son mari, il est charpentier, il a passé la journée sur les toits par 40 degrés, etc. On a tout autant le goût du travail que quand on gère une grande entreprise.
Autre question, on a en fait ici un tête-à-tête entre deux entrepreneurs. Et quand on lit les témoignages d'anciens associés de Légende dans la fameuse enquête du Monde, on retrouve un peu une obsession du chiffre, de la croissance, de la performance, de la course à l'audience, au mépris des conditions des travailleurs. Je vais citer quelques exemples. Les employés rapportent pouvoir être appelés à tout moment, même le dimanche, faire face à beaucoup de pression et une grande charge de travail avec des semaines de 35 heures pouvant se transformer en 55 heures. Alors Benjamin, au-delà de leur parcours et des échelles différentes, est-ce qu'on assiste à un même imaginaire partagé de l'entrepreneuriat ?
Oui, du néolibéralisme en fait. C'est-à-dire où c'est le travail individuel, la personne individuelle qui porte la responsabilité de la réussite collective. C'est quelque chose qui est très fort dans le discours managérial néolibéral, hein, c'est-à-dire qu'on est une grande famille, mais quand même, on porte tous les enjeux liés à la réussite collective, quoi, donc il faut tous se donner à fond. Et peut-être qu'on y reviendra après, mais en vérité, cette fausse neutralité, cette apparence de neutralité qui est donnée par Gameplay, elle est complexe et presque impossible dans le journalisme et au sein des producteurs de contenu, et elle masque une véritable préférence pour ces cadrages, ces modes de pensée qui sont ceux du néolibéralisme contemporain et qui s'expriment chez tous les invités business que Guillaume Play reçoit et aussi un petit peu parfois chez certains sportifs chez certains sportifs, oui.
Et même parfois, on dirait que Guillaume Play s'adresse à eux, à ses entrepreneurs. Je donne un exemple. Il écrit sur un post Facebook pour vendre après, enfin voilà, pour publier cette interview. J'espère que cette conversation inspirera autant les entrepreneurs que tous ceux qui cherchent à comprendre le parcours d'un homme qui a profondément marqué l'économie française. Audrey Millet, les 10 dernières minutes de l'interview dans Légende, c'est que des questions consacrées à des conseils que Bernard Arnault pourrait donner aux futurs entrepreneurs. Donc, cette fin d'entretien, elle transforme un peu Bernard Arnault comme un coach de la réussite. Qu'est-ce que ça traduit, ce choix éditorial final, cette ouverture ?
C'est la création du fantasme. C'est les secrets pour réussir et c'est surtout les secrets pour devenir riche. En réalité, c'est que le travail est synonyme automatiquement de richesse. Alors la richesse intérieure, la richesse intellectuelle, la richesse des savoirs, c'est pas celle-là. En réalité, là, c'est vraiment la richesse en millions. Bernard Arnault nous donne ses tips. Il faut beaucoup travailler. Il faut avoir des valeurs. Mais en réalité, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'il nous explique pas comment faire. Mais ça, c'est une tradition. En effet, je suis totalement néolibéral. Depuis la fin du 19e siècle, monte en croissance le nombre de manuels publiés sur comment être connecté à Dieu et devenir riche. Alors ça se fait beaucoup. Puis alors ça revient. Là, c'est une nouvelle mode. Comment connaître le succès ? Oui, en fait, il devient un peu coach en développement. Voilà. Bernard Arnault, en développement de l'entrepreneur. Mais c'est du rêve, du fantasme, c'est véritablement Instagram. Apparemment, là, le rêve en tous les cas, des gens qui ont commenté de manière positive, parce que ce n'est pas le cas sur tous les médias. Ça dépend vraiment des médias. Puis il y a des commentaires aussi qui peuvent être supprimés. On a vraiment l'impression que le nouveau rêve, c'est d'être entrepreneur, auto-entrepreneur. C'est devenu en fait une obligation. Mais c'est un mythe, c'est le mythe de l'entrepreneuriat, de celui qui se construit tout seul. En fait, on ne réussit jamais seul.
Il y a l'entrepreneur, mais il y a aussi le père de famille. L'un des fils rouges de cet entretien, c'est aussi la manière dont Bernard Arnault est questionné sur sa famille, sur ses parents, ses petits-enfants, ses enfants. Un récit donc centré sur l'humain, on regarde.
Votre papa était ingénieur et dirigeait Ferré Savinel, donc entreprise de BTP. Votre maman était la fille du créateur de Ferré Savinel, pour comprendre comment ça fonctionnait. Vos parents se sont rencontrés au travail à l'époque. Quelles valeurs ils vous ont appris ? Comment vous avez été éduqué sur quelles valeurs ? Est-ce que votre père vous a donné un conseil aussi, dans le business, que vous gardez précieusement ? Vous avez racheté la maison de votre grand-mère ?
Non, je n'ai jamais vendu.
J'ai entendu quelque chose, c'est que vous aviez mis un bulletin scolaire dans le cercueil de votre grand-père.
Oui.
En 2006, vous allez vivre un drame, vous allez perdre votre sœur, Dominique. Est-ce que je peux vous en parler ? Je peux vous poser une question ?
Oui.
Vous étiez très proche d'elle ? Vous aviez quelle relation avec Dominique ? Est-ce qu'elle vous a appris quelque chose ? Vous vous souvenez toujours et que vous utilisez parfois ? Vous avez Delphine qui est PDG de Christian Dior Couture aujourd'hui, Antoine qui est donc PDG de Christian Dior SE, c'est la holding familiale, et qui s'occupe de la communication
la
aussi,
communication,
de tout le groupe, de l'image LVMH, Alexandre qui est DG, donc délégué de Moët & Cie, Frédéric qui est PDG de L'Europiana, magnifique marque,
très belle affaire,
et Jean, on en parlait tout à l'heure.
qui s'occupe des montres Vuitton, qui dirige les montres Vuitton.
Vous êtes fier d'eux ? Vous êtes grand-père aujourd'hui ?
Oui.
Est-ce que vous arrivez à profiter de vos petits-enfants, malgré qu'on est à la tête du groupe LVMH ? Est-ce que vous avez du temps ?
Oui, régulièrement.
Est-ce que c'est plus facile d'être papa ou grand-père ? Est-ce que c'est les seuls qui arrivent à vous manipuler, vos petits-enfants, en vous faisant un sourire ?
Là, Benjamin, comment, par la narration, l'intime, on passe d'une puissance économique à un personnage complètement familier ?
Ben, en tirant sur des canevas narratifs très classiques, finalement. C'est-à-dire la famille traditionnelle, où tout se passe bien, avec beaucoup d'affect, des affects plutôt protecteurs. Et à nouveau, ça tire également le fil qui est le nôtre quand on a commencé à parler du néolibéralisme, etc. C'est aussi montrer certaines valeurs conservatrices, qui d'ailleurs, dans l'histoire du néolibéralisme français, sont bien représentées. Hein, les grandes figures du néolibéralisme depuis la fin des années 30 jusqu'à les années 80, où il y a eu vraiment une flambée de ces personnes dans l'espace public et dans les postes de pouvoir. Les histoires du néolibéralisme français le montrent bien. Ben, c'est des gens qui sont catholiques et catholiques pratiquants et qui tiennent à cette vision là très normie, très traditionnelle de la famille, et elle est considérée comme étant fonctionnelle économiquement, parce que quand vous avez une famille à l'abri, vous pouvez bien travailler. Par ailleurs, les normes morales sont un aiguillon des comportements aussi puissants que par exemple la recherche du profit, et donc c'est très très pratique pour avoir des institutions décentralisées, d'avoir des gens qui ont des valeurs et puis qui recherchent le profit, et c'est tout à fait en adéquation avec ce qu'est le néolibéralisme. Voilà, donc ces valeurs, finalement, en donnant à la fois un récit très traditionnel et très traditionnaliste de ce qu'est la famille Arnault, elles sont aussi pleinement compatibles avec l'homme d'affaires, avec l'homme de réussite économique.
Et vous, Audrey Millier, vous pensez que tout ce narratif autour de la famille, ça participe à faire de Bernard Arnault un monsieur tout le monde ou non ?
Ce n'est pas anodin, hein. C'est véritablement l'émotion familiale qui sert à désamorcer la critique. On a le grand-père qui intervient, le bulletin scolaire glissé dans le cercueil, la sœur disparue, les petits-enfants, les enfants, le piano, le tennis, évidemment, parce que tout ça participe de l'environnement familial. Donc, tout le registre, en réalité, c'est le registre de la tendresse. Bernard Arnault n'est pas un requin, ce n'est pas une pieuvre, ce n'est pas un capitaliste. La fonction de ce moment-là, c'est de rendre l'homme finalement attachant. La critique systémique, finalement, lorsqu'on voit cet homme qui aime tellement ses petits-enfants, elle devient indécente. On ne discute pas de licenciement avec un grand-père ému. Et donc, c'est une autre manœuvre pour moi, des confidences qui ne sont absolument pas inédites, parce que finalement, ces réponses seraient la réponse de tout à chacun. Voilà, tout le monde s'aime et tout va très bien. Mais il n'y a pas eu, par exemple, la question, la contradiction de Guillaume Clay, elle n'est pas là, la question de la succession. On n'était pas là pour embêter l'actualité de Bernard Arnault.
Un autre élément frappant, l'empire industriel. Ici, dans cette interview, disparaît en fait presque derrière une autre image. On va écouter la vision du luxe de Bernard Arnault.
Vous m'avez dit que je pouvais vous poser vraiment toutes les questions pour refaire le parcours. Quelle est votre définition du luxe à vous ?
Alors, je vais peut-être vous étonner, mais le luxe n'est pas un mot qui me plaît particulièrement.
Ah bon ?
Parce que il est souvent associé de manière un peu péjorative à des aspects qui n'ont rien à voir avec notre activité. La frivolité, la superficialité, l'inutilité, le bling-bling, etc. Alors que nos métiers, les métiers du groupe, sont des métiers artisanaux qui fabriquent, qui créent des produits de très haute qualité, qui n'ont rien à voir avec ce côté frivole hein, que le luxe apporte quand on l'utilise. Alors néanmoins, l'ensemble de l'industrie, des journalistes, l'ensemble des analystes financiers nous ont classés dans l'industrie du luxe. D'ailleurs, les deux mots sont imparfaits. Parce que d'abord, on ne pense pas que nous soyons une industrie, mais plutôt un ensemble d'artisans et de créateurs qui fabriquent des produits en quantité limitée tout à fait exceptionnelle et de la plus haute qualité. Donc rien à voir avec la frivolité, la superficialité, etc. Alors, je vis quand même avec cette définition l'industrie du luxe, mais je n'y adhère pas complètement au niveau de la phraséologie.
Audrey, vous avez hoché la tête pendant la diffusion de ce montage. Vous êtes historienne du luxe. Qu'est-ce qui manque à cette vision très artisanale ?
Alors déjà, je voudrais dire à Bernard Arnault que le luxe, oui, est frivole, est superficiel, mais qu'en fait, on en a besoin. Je ne suis pas la première à le dire. Je crois que certains grands auteurs comme Voltaire l'ont expliqué. Et en fait, ça fait partie de la vie. Je crois que Colbert a monté toutes les manufactures au XVIIe siècle en France. Ça fait partie de la vie et de l'économie. Et c'était une qualité française. Bernard Arnault récuse le mot luxe parce qu'en fait, pour lui, ça sonne comme argent, bling bling, fric, voilà, trop plein. Et c'est ça qui le dérange. Et il dit diriger des artisans. En fait, c'est tout à fait le contraire. Les faits sont juste repérables par l'échelle. LVMH est un groupe industriel et financier. 213 000 collaborateurs, 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est coté au CAC 40 tout de même. Et donc sa logique, c'est le name branding. Ce n'est pas l'artisanat. C'est on achète des noms qui sont chargés d'histoire. Dior, Vuitton, et là on voit Eugénie, on voit des princesses, on voit Audrey Hepburn, Givenchy. Voilà, tout Hollywood, tous les tapis rouges se déroulent. Le vrai artisanat, il existe. Et c'est précisément un modèle qu'il n'a pas et qu'il a voulu acquérir, et c'est Hermès. Hermès, un sac est fabriqué par un artisan. Et ils ont 5600 artisans. Il n'y a pas de sous-traitance, il n'y a pas d'accélération. Et en fait, vous allez attendre. Alors, c'est aussi une stratégie, mais ça existe. La réalité du luxe d'LVMH, elle est industrielle. Il y a quelques produits limités, mais le plus important, c'est le volume, et notamment le sac à main. Produits à la chaîne, alors on a énormément d'enquêtes, avec des cadences terribles et des sous-traitances qui sont régulièrement montrées du doigt, notamment en Italie, grâce au procureur de Milan. C'est-à-dire que sa formule, quand il dit artisan ou qu'ils écrivent tout le temps LVMH, désirabilité, en fait, ce sont devenus des mots valises, tout simplement. C'est du marketing. À cette échelle industrielle et avec une telle sous-traitance, c'est un fait. Le vocabulaire, en fait, qu'il utilise, cherche juste à adoucir les chiffres et à décrire une autre manière. Alors qu'en réalité, ces sacs à main-là, ces ceintures-là, ces manteaux-là sont faits dans des usines.
Oui, ça, on peut imaginer que dans la définition du luxe de Bernard Arnault, l'impact écologique et social n'existe pas. Il y a un autre épisode, un peu de réécriture, que j'aimerais qu'on analyse ensemble. Un épisode sur lequel Bernard Arnault revient longuement, c'est l'affaire Boussac, à la fin des années 70. L'empire industriel de textile de Marcel Boussac dégringole. Un épisode où Bernard Arnault va s'emparer du groupe textile qui comprenait Dior, grâce notamment à un prêt d'argent public. Et là encore, il en propose une version très précise. On va l'écouter.
Ce qui est écrit en général là-dessus, c'est M. Arnault, il a commencé, bien sûr, mais c'est l'État qui l'a aidé. Je vais vous donner quelques chiffres, parce que les chiffres, c'est quand même intéressant. Quand j'ai repris cette société, elle était en faillite. On a proposé, nous, de mettre 400 millions de francs d'argent. Moi, je ne les avais pas. Et donc, j'ai mis 50 millions avec le groupe familial et j'ai des investisseurs qui m'ont suivi pour 400 millions. Et on a demandé à l'État de nous faire un prêt. Ça fait à peu près 400 millions, ça fait à peu près 70 millions d'euros. Hein. Non seulement on a redressé l'affaire, mais on a remboursé plus que l'argent qu'on nous avait prêté. Et alors maintenant, on dit, oui, mais quand même, quel scandale, M. Arnault, l'argent de Boussac, comment ? C'est l'État qui a fait sa fortune. Alors, je voudrais juste donner un chiffre. Donc, on a reçu un prêt de 70 millions. Depuis cette époque, le groupe que j'ai monté, à partir de ça, a payé à l'État, dont 70 millions d'euros l'équivalent, hein, a payé à l'État sous la forme d'impôts et de charges sociales, 40 milliards. OK ? Donc, il s'agit là, et on peut féliciter le Premier ministre Fabius de l'époque, du meilleur investissement jamais fait par l'État français à aucun moment.
Audrey, là encore, qu'est-ce qui vous marque dans la manière de présenter l'affaire Boussac ?
Je n'ai pas les mêmes chiffres que lui, en fait. On n'a pas dû lire les mêmes archives. Il résume Boussac avec un chiffre rassurant. Il a remboursé un prêt de 70 millions. Je ne connais pas ce chiffre. Et ce serait le meilleur investissement de l'État. Mais en réalité, trois faits contredisent ce que dit Bernard Arnault. Ce n'est pas un prêt, c'est une aide publique avec des subventions qui sont comprises et qui vont atteindre 1 milliard de francs entre 1982 et 85. Une subvention, par définition, ça ne se rembourse pas. Les vrais lésés n'ont pas été remboursés, c'est-à-dire que les créanciers de Boussac, ceux qui avaient investi dans Boussac, ceux qui travaillaient avec Boussac, qui livraient des tissus, qui faisaient des tissus, qui travaillaient pour Marcel Boussac, ça peut être des banques, des fournisseurs, mais des salariés, eux, ils n'ont récupéré que 40% de leurs créances qui n'ont pas été réévaluées sans aucun intérêt. Et tout ça en 2003, alors qu'on est d'accord, il a racheté Boussac en 1984. Il a mis un petit peu de temps. Et les 40 milliards rendus à l'État dont il parle, c'est un chiffre qui additionne en réalité 40 ans d'impôts et de cotisations d'un groupe devenu mondial. Et il faut savoir que l'aide d'un milliard dont je vous parle et dont il ne vous parle pas a été déclarée illégale par Bruxelles, puisque la France n'avait pas notifié Bruxelles de cette aide-là. C'est-à-dire que en Europe, un État n'a pas le droit de prévenir une entreprise sans prévenir d'abord la Commission européenne. C'est une obligation. Et là, la France a versé 1 milliard sans le notifier. Et donc, la Commission a déclaré cette aide illégale et Bernard Arnault a dû rembourser. Donc, c'est quand même une histoire qui est où il y a des sanctions. En réalité, il y a souvent des sanctions, on en parle peu, on entend toujours « c'est légal ». Mais ça n'a pas été considéré par Bruxelles. Et il y a évidemment ses emplois. Donc, lorsqu'il récupère Boussac, on a 12 000 emplois. Il promet d'en conserver 10 000. C'est grâce à ça qu'il peut avoir les aides de l'État. En réalité, il a licencié 9 000 personnes en 3 ans. Sans bruit, sans fureur. Et c'est une véritable architecture du licenciement. Donc là, on a du licenciement direct. Et en ce qui concerne, parce qu'il n'y avait pas que du luxe dans Boussac, il y avait aussi l'entreprise Peau Douce. Vous savez, les couches culottes. Ultra bénéficiaire. J'ai envie de vous dire que c'était le Dior de l'hygiène pour enfants. Ultra bénéficiaire. Il promet noir sur blanc à Fabius, qui l'a cité, de consolider l'emploi dans cette branche. Résultat, plus de 2600 licenciements et il revend Peau Douce à des Suédois pour tout de même 2 milliards de francs. Donc, je crois que c'est une entreprise qui allait bien. Ensuite, il revend au Prouveau, une dynastie textile du Nord, que les deux Vavrin, tout le monde connaît bien dans le Nord. Les Prouveau licencient à la suite en disant « moi, je ne me suis pas engagé comme Bernard Arnault ». Donc, cette histoire est juste une fuite à chaque fois des salariés. Aujourd'hui, à Roubaix, dans la région, les ateliers sont fermés. On cherche aussi le manuel de la réussite. Elle fait partie quand même des villes les plus pauvres de France. Et ces façades de briques, elles sont dans un état aussi mauvais qu'en 1949, quand est né Bernard Arnault. Son histoire, ses chiffres ne tiennent pas debout, ce n'est pas ce qui est indiqué dans les archives.
J'allais justement vous poser la question des emplois, mais vous l'avez largement évoqué. Maintenant, j'aimerais conclure avec une autre idée. Celles et ceux qui nous regardent ont une idée peut-être un peu plus claire maintenant de ce qu'est Légende. J'aimerais vous questionner sur sa responsabilité. Et pour ça, je vous propose qu'on écoute les mots de Guillaume Play, qui était invité le 6 novembre 2025 sur France Culture. Il participait à un débat avec Gérald Bronner, donc professeur de sociologie à Sorbonne Université, sur cette fameuse responsabilité.
en vous écoutant, j'étais assez intéressé de dire que vous interrogez tout le monde est intéressant, moi je suis assez d'accord, et que parfois même vous interrogez au hasard des gens, vous rencontrez quelqu'un sur un banc, mais ce discours, si je puis me permettre, pourrait donner l'impression, l'illusion que vous n'éditorialisez pas, hein, parce que c'est le hasard, je rencontre quelqu'un, etc. Or, en fait, il y a une éditorialisation, bien sûr, dans le choix de vos invités. Est-ce qu'à un moment donné, pour en finir avec cette introduction, vous allez vous poser la question de l'éditorialisation et finalement de votre responsabilité?
C'est, les Français sont intelligents. C'est-à-dire que s'ils consomment et qu'ils aiment aller écouter une voyante, avec laquelle d'ailleurs on a fait 4 millions de vues, donc c'est quand même sur une émission qui fait 2 heures ou 2 heures et demie, c'est que les Français ont envie d'entendre ça. Pourquoi les en priver? S'ils sont passionnés d'astrologie, vous m'avez dit, Guillaume, vous avez écouté l'émission d'astrologie. Bon, bah, s'ils ont envie d'entendre ça, ça correspond à la consommation des...
Mais là, vous vous exonérez de votre responsabilité, Guillaume. C'est-à-dire que, bien sûr, que compte tenu de la puissance d'émission de votre chaîne, vous allez présenter, vous avez un savoir-faire, toutes sortes de profils qui peuvent être intéressants. Je le redis, je suis d'accord avec vous. Même une voyante, ça peut être intéressant. C'est pas ce que je dis. Mais, par contre, si vous faites croire que vous faites une offre qui est là parce qu'il y a une demande potentielle. Non, vous avez en tant qu'offreur un pouvoir sur ce marché qui est d'attirer l'attention et il y aura toujours des gens pour venir écouter ce que vous
dites. Guillaume, j'entends ce que vous dites et en même temps, je trouve ça important de ne pas choisir ce que doivent consommer les Français. Vous savez, aujourd'hui, avec Internet, ils vont consommer ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'écouter de la voyance, ils vont écouter de la voyance. S'ils ont envie, c'est à la demande.
Guillaume. Ouais,
bah, moi, je choisis. Alors, bah, regardez, j'ai fait 450 émissions. On a eu les sondages au Doxa qui sont tombés. Il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. C'est très équilibré, de 13 à 80 ans, c'est que ça correspond à une demande. Si on est si écouté, c'est-à-dire qu'on ne tape pas à côté. Après, je n'oblige pas un Français à le mettre devant son écran pour regarder une émission de voyance. Je propose.
Là, qu'est-ce qui retient votre attention dans ce débat, dans cet échange? Et puis voilà, quelle est la responsabilité de Guillaume Play, justement?
Alors, il y a énormément de choses. Hein. Bon, déjà, il a... Ses responsabilités de iure devant le droit, la loi, elles sont faibles, hein, puisqu'on l'a dit. Il est pas journaliste. Par contre, il doit pas faire de diffamation, pas faire d'injures, voilà, puisqu'il est dans une espèce d'espace public. Bon, maintenant, de facto, sa responsabilité, elle est très importante pour deux raisons. Il fait beaucoup d'audience et à peu près un Français sur deux aujourd'hui, c'est les enquêtes sur les façons dont les Français s'informent, bah, s'informent sur Internet. Donc, ça veut dire que dans la perspective de la présidentielle, c'est assez énorme, puisque, bon, même si les médias sont très très loin de faire, ou en tout cas ce qu'on entend sur les plateformes sont très très loin de faire l'élection, il a une responsabilité de facto qui est énorme. Et évidemment qu'il choisit, moi je ne suis pas sûr d'avoir entendu... un sociologue, un géographe, un activiste pour le climat, pour les droits des animaux. Voilà, peut-être que c'est le cas. Et même si c'était un, ils sont tellement noyés dans tous les sujets, sécurité, faits divers, business, et puis pas n'importe quel business, on l'a assez évoqué. À nouveau, il a complètement le droit de faire ça. Il est chez lui. Il a aucun impératif de pluralisme interne auquel il est soumis, mais en revanche, il ne peut pas, derrière, revendiquer la neutralité comme une espèce de label de qualité. Et par ailleurs, pour terminer sur votre question, moi je crois, comme Gérald Bonheur, que les médias, ce n'est pas vraiment un truc de demande, c'est un truc d'offre en fait. C'est un truc d'offre. Mmh. Et ce qui compte, c'est d'avoir un contenu de qualité. Enfin, ce qui est important plutôt quand on a une responsabilité, c'est d'avoir un contenu de qualité où on parle d'idées, peut-être qu'on en reparlera si on parle de la présidentielle après, mais d'idées et d'idées politiques. Et pour ne pas conduire les électeurs à voter pour Bardella parce qu'il a des beaux costumes, qu'il est beau, etc. Vous voyez?
Mais allez-y, pour vis-à-vis des présidentielles, du coup.
Oui, moi, ce qu'on peut souhaiter, si on peut lui adresser un message, c'est de se mettre à aimer la politique. Il dit qu'il n'aime pas ça et qu'il n'en fait pas parce que ça ne l'intéresse pas, mais c'est extrêmement intéressant. Et ce serait génial d'avoir un espace comme ça. Il y en a d'autres qui existent dans d'autres plateformes, mais plus on en a, mieux c'est. Où vous avez quelqu'un qui peut, pas en meeting, pas en rassemblement ou quoi que ce soit, expliquer les idées et le programme qu'il défend. Il y en a sur YouTube, il y a effectivement les matinales qui restent de France 2, de RTL, de France Inter, etc., qui restent des espaces dans lesquels il y a de la confrontation, il y a de la contradiction. Pourquoi pas des espaces dans lesquels on offre une tribune à tout le monde et où on vient présenter ses idées. Et puis qu'il mette son talent, sa bienveillance au service de ça et de l'alimentation d'un débat démocratique sur ce que c'est que la politique. Et pas sur simplement le désir et la fabrique d'un candidat ou d'une candidate séduisante. Et j'ai dit Jordan Bardella tout à l'heure, mais évidemment que les choses se reproduisent avec Marine Le Pen et ses chats, puisque c'est elle qui, a priori, est la candidate pour les élections.
Mais là, du coup, vous, finalement, quelque part, vous estimez que ça peut être compatible, ces deux formats? Si pluralisme il y a sur Légende, ça pourrait être compatible avec des formats journalistiques. J'allais vous poser la question, en fait, est-ce que le format de Guillaume Play, il ne peut pas, à terme, tuer le journalisme, dans le sens où une personnalité politique préférera largement faire des audiences similaires à TF1 et France 2 sur Légende avec un tapis rouge que d'aller se confronter à Benjamin Duhamel, même si on peut aussi critiquer ses pratiques. Voilà, est-ce que, pour vous, c'est donc compatible et ça ne tue pas le format journalistique? Enfin, le journalisme.
Oui, vous avez raison. Bon, après, les méthodes des personnes qui traitent l'actualité journalistique, elles sont complexes. Et on arrive à avoir des journalistes qui traitent l'actualité journalistique sans forcément faire des interviews comme ça, en on, très, très ronflante, etc. C'est beaucoup de coups de fil et d'interviews comme ça. Et les partis, que ce soit à droite, à gauche, ont un intérêt à parler à des journalistes bien, enfin, en tout cas, je ne sais pas, mon optimisme, on va dire, des journalistes professionnels, c'est-à-dire...
Ils confrontent à leur responsabilité,
oui, oui,
ce
oui,
qui n'est pas le cas ici.
Exactement. Et puis par ailleurs, ils ont intérêt à le faire parce qu'ils savent que pour qu'il y ait un débat et pour qu'il y ait une sérénité dans un espace public et une démocratie, il faut qu'on puisse statuer sur un certain nombre de vérités et des faits, parler sur des faits, et pas seulement parler sur des opinions.
Autre question, le lien de Guillaume Play avec d'autres idées. En fait, certains amènent la comparaison de Guillaume Play à Joe Rogan aux États-Unis, qui est podcasteur et qui a largement contribué à la réélection de Donald Trump. Vous, qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce qu'on peut dire du positionnement de Légende vis-à-vis de l'extrême droite? Qu'est-ce qu'on en sait?
En regardant les vidéos, moi, je suis mal à l'aise de dire que Légende est d'extrême droite. Je veux pas dire ça. C'est pas le cas. Et moi, ça m'arrive de consommer des interviews. Il y a un YouTuber qui s'appelle Esprit Dog qui raconte comment élever des chiens. Moi, j'ai un chien. Je trouve l'interview géniale parce que ce type est formidable. Et c'est très bien. Pareil pour les sports de combat, etc. Il y a des moments qui sont importants, qui sont bien.
La question, c'est pas est-ce que Légende est d'extrême droite. C'est pas du tout ce qu'on a dit.
Bien sûr.
Mais sa position vis-à-vis de l'extrême droite, par exemple des personnalités d'extrême droite qui ont pu venir, parce que ça a été le cas sur Légende.
Alors, par ailleurs, et c'est vrai que c'est le deuxième aspect de ma question, il y a tout un tas d'acteurs en France qui ne sont pas d'extrême droite, mais qui font l'extrême droite. C'est le titre d'un livre de Sylvain Bourmeau qui sort à la découverte bientôt et qui participe d'une espèce d'ambiançage, comme ça, je reprends son mot, mise à l'agenda de thématiques plutôt que d'autres et de mise en sourdine des thématiques qui sont portées par la gauche. Les conflits du travail, l'égalité des conditions, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Donc, moi, j'inscris Légende, mais comme plein d'autres acteurs, dans cette famille de médias, producteurs de contenu, que sais-je, qui ne sont pas d'extrême droite, moi, je suis mal à l'aise de le dire, mais qui font l'extrême droite.
Audrey Millet, vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que Légende est en train de devenir ou est devenue incontournable dans la communication des puissances économiques?
Moi, j'ai été marquée par le mot consommation, en réalité. C'est qu'il donne à manger aux gens. Voilà ce qu'il dit. On est là pour consommer. Et il se défend, finalement, en disant qu'il va donner aux Français ce qu'ils veulent, qu'il répond à une demande. C'est-à-dire que, de fait, il se dédouane. Il valide sa propre formule. C'est un argument qui est très classique, en réalité, et qui s'absout de lui-même. Il va façonner, en réalité, grâce à des choix, grâce à une humanisation de certaines thématiques. Donc, ça peut être la prison et Nicolas Sarkozy, ça peut être le grand entrepreneuriat, ça peut être l'espionnage, c'est un peu fascinant. Vous voyez ces gens un peu fascinants sur un plateau qui est voyé noir, violet, avec des néons, qui peut faire penser à du complotisme. Alors c'est pas de l'extrême droite ce qui se passe là, mais ça donne en fait du grain à moudre. Et le consommateur de légendes, finalement, il a jamais eu le choix entre une interview d'Arnaud avec contradiction et sans contradiction. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas de contradiction aussi. Mais avec cette présidentielle qui s'esquisse, évidemment, lui, étant donné que c'est son fantasme, la richesse, les yachts et les puissants, il offre aux puissants, à des candidats potentiels, à des milliardaires, à des oligarques médiatiques, à des agences de communication, de propagande. Il leur offre une scène de blanchiment d'une image. Il leur offre, et là je reprends le mot de Benjamin, une fabrique du consentement, une fabrique de l'image. Et de fait, c'est très éditorialisé. Et là, et vraiment, il se cache derrière. Vous avez vu mon nombre de vues ? C'est parce que je sais ce qu'il faut donner aux Français et je connais leurs goûts. Or, c'est lui, en réalité, qui est en train de manipuler les goûts et d'offrir une forme une forme de servitude volontaire qui ne va que dans un sens et jamais dans l'autre.
Benjamin, un dernier mot peut-être sur la place de légende dans le paysage médiatique ?
Une place importante, hein, c'est indéniable. Une force pour avoir réussi à recycler d'anciens formats d'infotainment pour YouTube. Donc de ce point de vue-là, c'est clair une réussite. Mais moi, je souhaite vraiment que, à l'approche de la présidentielle, ces questions de la responsabilité soient reposées. Ouais. Et puis pour reparler de Joe Rogan, c'est vrai qu'il y a aussi tout un écosystème bien plus large au fond autour de lui, hein, autour du MMA, autour de Dana White, autour de plein d'autres influenceurs. Là, Guillaume Play, moi, il me semble plutôt, même s'il reçoit des personnalités qui certainement ont des accointances avec d'autres personnes à l'extrême droite et des influenceurs par ailleurs, il me semble davantage isolé. Quoi, je comparerais pas nettement les deux situations où, par ailleurs, c'était le deuxième mandat de Trump et il y avait déjà quand même un très solide maillage d'influenceurs très visibles qui étaient derrière lui.
Merci à tous les deux d'avoir été présents sur le plateau d'Arrêt sur Image pour analyser, interroger l'interview de Bernard Arnault sur Légende. Peut-être je vous dis à bientôt parce que Guillaume Play a annoncé avoir bien envie de faire un épisode 2 en voulant suivre Bernard Arnault 24 heures dans sa vie. Je cite, il dit que ça lui plairait de voir à quoi ressemble sa journée du matin au soir. En attendant, merci d'avoir regardé cette émission et à bientôt pour nos émissions d'été.